Radio La Sentinelle vous présente une conférence de Jean-Marc Taubois, enregistrée en janvier 2016 sur Israël. En guise d'introduction, la première partie aura pour sujet « Pourquoi Israël ?».
Voilà, je vais tout d'abord vous saluer au nom du Seigneur. On m'a demandé de me présenter, de donner mon témoignage. Bon, je vais être très bref, parce que je n'ai pas parlé de moi. Alors, je suis originaire d'une vieille famille, Poitville, descendant de Huguenots. Et je m'honore d'avoir dans notre famille un galérien pour la foi. Quelqu'un qui, pour rester fidèle à Jésus-Christ, a accepté donc d'être emmené dans ces conditions terribles, dont certains ont pu dire que c'était pire que la mort. J'ai eu donc l'occasion d'entendre parler du Seigneur depuis ma plus tendre enfance et aussi la place d'Israël, dans la mesure où mes grands-parents, pendant cette période de la Deuxième Guerre mondiale, avaient eu la possibilité de cacher un jeune juif qu'ils avaient fait passer pour leur fils pendant la deuxième partie de la guerre. Mon grand-père a été très marqué et il s'est beaucoup intéressé à ce qui concernait Israël, de telle sorte qu'il est allé visiter ce pays à une époque où c'était très rare et très, on dirais-je, très peu apprécié. Et il a, à son retour, il m'a communiqué le virus. Et quand on prend ce virus-là, c'est pour la vie. Et c'est la raison pour laquelle l'année suivante, je me suis rendu en Israël avec une bourse du gouvernement français. J'ai eu la possibilité d'avoir une deuxième bourse l'année suivante. Et puis, petit à petit, donc, j'ai appris l'hébreu. Et après avoir fait des études pastorales en Angleterre, j'ai poursuivi ses études à l'Université hébraïque de Jérusalem. Puis je suis devenu, après cette période qui s'est achevée avec la guerre des six jours, que j'ai eu l'occasion de faire là-bas dans la défense passive, j'ai été pasteur pendant 5 ans dans une église du nord de la France, et ensuite en Bretagne, où je suis resté jusqu'à ma retraite, si bien que maintenant que je suis en retraite, je travaille. Voilà, donc ça c'est très brièvement mon parcours. Ce matin, on m'a demandé de vous parler de pourquoi Israël. Et je voudrais donc introduire cette réflexion, cette méditation par 2 lectures dans la parole de Dieu. Tout d'abord, au chapitre, au psaume 74. Psaume 74. Nous lisons un court verset, le verset 12. Et ce psaume dit ceci. « Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui a opéré le salut au centre de la terre. » Un autre texte dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 38, il est question de cette guerre ultime, la guerre que l'on appelle dans la tradition juive la guerre de Gog. Cette guerre, on la retrouve décrite aussi dans le livre de l'Apocalypse, et dans le livre de l'Apocalypse, c'est devenu proverbial dans notre langage évangélique, disons, cette même guerre que les Juifs appellent la guerre de Gog, nous l'appelons la guerre d'Armageddon. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur cette guerre ce matin, ce serait trop long. Je voudrais simplement lire un verset où il est question de ces pensées mauvaises qui monteront dans le cœur du chef de cet empire, de telle sorte qu'il dira ceci, verset 12 du chapitre 38, « J'irai prendre du butin ou livrer au pillage. Tu porteras la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant du cheptel et des biens, habitant le centre du monde. » Et l'expression qui est ici traduite par « centre du monde » dit littéralement ceci, « le nombril du monde ». Tu as opéré le salut au centre du monde. Et au temps de la fin, le chef de cette coalition de peuples, montera vers un pays qui est le centre du monde. Ce pays, quel est l'endroit où le salut a été effectué, comme le dit le psaume 74? Quel est l'endroit où il y a eu la mort et la résurrection du Messie? C'est évidemment Jérusalem, et par conséquent Israël. Et la Bible nous dit que le pays d'Israël, c'est le centre du monde. Est-ce que c'est une, comment dirais-je, un symbole, quelque chose qu'il faut prendre au second degré? Non. Et je voudrais évoquer ici un grand homme d'État britannique du 19e siècle, s'appelait Kipling, homme d'État et en même temps écrivain, homme extrêmement cultivé, auquel on demandait un jour « What is Palestine ?»« Qu'est-ce que la Palestine ?» Il a répondu ceci « La Palestine, c'est la boucle de la ceinture qui enserre le monde. » Et en tant qu'homme d'État, il avait compris la place stratégique unique de ce petit pays qui n'est guère plus grand que notre Bretagne et qui est en grande partie désertique, comme on le dit là-bas avec humour, ce qui pousse le mieux en Israël, ce sont les pierres. Seulement le problème, c'est que ça ne se mange pas et ça ne s'exporte pas. Et ce pays sec, désertique, désolé, et pourtant d'une importance capitale dans toute l'histoire humaine. Là, il nous faudrait évidemment avoir une carte du Moyen-Orient. Et on se rendrait compte que ce Moyen-Orient, c'est un vaste désert. Et il est traversé par deux systèmes de fleuves qui font d'immenses oasis dans le Moyen-Orient. Le premier, c'est le bassin du Tigre et de l'Euphrate, que les Grecs appelaient la Mésopotamie, que la Bible appelle le pays de Shinéar. Et le deuxième, c'est la vallée du Nil, qui va donner naissance à l'Égypte historique. Et à cause de la fertilité de ces deux régions, c'est sur les bords de ces deux fleuves, de ces deux systèmes de fleuves, en Mésopotamie il y en a deux, que vont naître les premières civilisations humaines. Des civilisations qui vont se développer indépendamment l'une de l'autre. Mais très vite, ces deux civilisations qui sont différentes parce que le pays est différent, vont avoir des contacts et vont comprendre qu'elles sont complémentaires. Et il va y avoir des échanges qui vont avoir lieu. Des échanges qui peuvent se faire par mer, mais qui se font essentiellement par terre. Et si vous prenez une carte du Moyen-Orient, vous allez voir que pour passer de Mésopotamie en Égypte, ou d'Égypte en Mésopotamie, il y a un seul chemin possible, la terre d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, dès les aurores de l'humanité, de l'histoire humaine, le pays d'Israël et un carrefour, une plaque tournante de toutes les routes qui passent du Moyen-Orient en Afrique. Et encore aujourd'hui, cette situation exceptionnelle du peuple de la terre d'Israël, qui autrement n'aurait aucune autre importance, eh bien, est due au fait de cette position stratégique qu'il occupe comme centre de toutes les voies d'échange du monde entier, pour aller d'Afrique en Asie, d'Asie en Afrique, on est encore aujourd'hui obligé de passer par le pays d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'histoire, tous les grands conquérants, tous ceux qui ont cherché à établir des empires, ont toujours voulu contrôler cette plaque tournante du Moyen-Orient qu'est le pays d'Israël. Et, comme l'avait dit Kipling, parce qu'ils ont compris que c'était la boucle de la ceinture qui enserrait le monde entier. Maintenant, Le pays d'Israël a une autre, un autre rôle de voie d'échange, cette fois-ci les routes maritimes. Et la terre d'Israël se trouve aussi baignée par deux mers, au nord la Méditerranée et au sud la mer Rouge qui débouche sur l'océan Indien et ensuite l'océan Pacifique. Et dans l'histoire des rois d'Israël, parmi les plus sages, ont compris le profit qu'ils pouvaient tirer de cette situation exceptionnelle d'Israël qui va devenir une sorte de canal de Suez, primitif terrestre cette fois-ci bien sûr, entre la Méditerranée d'une part et donc l'Atlantique, et ensuite la mer Rouge et l'océan Indien. Le premier de ces rois, c'est Salomon. Et Salomon donc, va développer des relations commerciales avec les marins qui se trouvaient au Liban, à Tyr en particulier. Et les richesses qui viennent de Méditerranée seront transportées par caravane jusqu'à Eilat, le port qui se trouve sur la mer Rouge, et de là redistribuées dans l'océan Indien jusqu'en Inde. Et le chemin inverse se fait aussi. Les richesses qui viennent de l'extrême-orient vont arriver à Eilat et remonter en direction des ports de la Méditerranée par caravane et être redistribuées dans l'Europe. Finalement, Europe et extrême-orient sont reliés entre elles par la terre d'Israël, le centre du monde. Et cette situation, évidemment, va faire la richesse du peuple d'Israël. Notamment, Salomon va être celui qui va porter cette situation stratégique d'Israël à son apogée, de telle sorte que le pays d'Israël va connaître un véritable âge d'or sous son règne. Mais cette situation exceptionnelle du peuple d'Israël sur le plan de la terre d'Israël, plus exactement sur le plan géostratégique, a aussi son revers. Parce que les relations entre les peuples, et notamment entre les empires, ne sont pas seulement des relations pacifiques, ne sont pas seulement des relations commercial, mais aussi il y a des conflits. Et les conflits naissent obligatoirement, dans la mesure où tout empire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tout fondateur d'empire, va chercher à contrôler les routes qui passent au travers du pays d'Israël. Il y a trois routes en fait, bon ça c'est secondaire. Et ces routes-là, elles vont toujours être l'objet de la convoitise des grands jusqu'à nos jours. Et celui qui contrôle, comme l'avons vu avec Kipling, ce pays contrôle les échanges du monde entier. Alors il va y avoir des conflits entre des empires qui vont se disputer le contrôle de ces routes. Ça veut dire la guerre. Et quel va être le champ de bataille de ces empires ? Forcément le pays d'Israël. Et depuis les origines de l'humanité, depuis les origines de l'histoire, la terre d'Israël a toujours été un champ de bataille. À tel point qu'il y a une petite boutade que les Israéliens racontent. Ils disent que lorsque Moïse a reçu de Dieu l'ordre de faire sortir le peuple d'Égypte et de l'emmener dans la terre promise, Moïse a demandé à Dieu, c'est quoi la terre promise ? Et Dieu lui a répondu, c'est le Canada. Mais Moïse n'a pas très bien compris. Au lieu de comprendre Canada, il a compris Canaan. Et au lieu d'emmener le peuple au Canada, il l'a emmené en Canaan. Et les Israéliens disent, c'est pour ça qu'on a tous nos problèmes aujourd'hui. Bon, c'est une boutade, bien sûr. Mais il y a du vrai. De fait, si la terre promise avait été située au Canada ou en Finlande ou dans un... Il est évident que le peuple d'Israël n'aurait pas eu cette histoire bouleversée que nous raconte la Bible et qui se poursuit jusqu'à nos jours avec le conflit israélo-arabe parce que justement la terre d'Israël a toujours été un champ de bataille. Et il est impossible qu'il en soit autrement aussi longtemps que le monde sera ce qu'il est parce qu'il y aura toujours ces ambitions de ces grandes puissances qui vont chercher à contrôler ce nœud de route. Ça veut dire que la paix n'existe pas dans ce pays. On ne sait pas ce que c'est que la paix. La paix, c'est simplement une trêve entre deux guerres. Et cette situation est une situation d'autant plus dramatique que le pays d'Israël est un petit pays. Par contre, au nord et au sud, il va se trouver pris entre des grands empires. Les empires du nord, c'est-à-dire la région de la Mésopotamie, à commencer par les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens, les Assyriens, les Chaldéens, etc., jusqu'à la destruction du temple, et puis au sud avec l'Égypte. Et Israël va se trouver pris en sandwich entre ces deux grandes puissances, l'Empire du Nord, la Mésopotamie, et l'Empire du Sud, l'Égypte. Parce que ces deux empires sont infiniment plus riches et infiniment plus peuplés que le pays d'Israël, Israël va se trouver en état d'infériorité. Et par conséquent, Israël va toujours être dans la sphère d'influence d'un de ces deux empires. Et c'est la raison pour laquelle il est pratiquement impossible de créer dans ce pays un État indépendant. Vous trouvez aussi ce jeu de bascule décrit à merveille par le prophète Daniel dans la deuxième partie de son livre. Israël qui passe tantôt sous l'influence de ce qu'il appelle le royaume du Nord et sous l'influence de ce qu'il appelle le royaume du Sud. Il y a un autre élément très important dans la géostratégie du peuple d'Israël. C'est que le pays d'Israël est divisé aussi entre deux parties, la partie des plaines, du nord au sud, la plaine côtière et puis la plaine du Jourdain. Et puis une chaîne de montagnes qui forme une espèce de colonne vertébrale du pays d'Israël. Et bien que le pays d'Israël soit un petit pays, et que ces montagnes soient des montagnes, disons, très très moyennes. Quand, par exemple, nous emmenons des Suisses avec nous dans nos voyages en Israël, et qu'on leur parle des montagnes de Juda quand ils arrivent à Jérusalem, et vous appelez ça des montagnes, vous ? Nous, on appelle ça, dans notre pays, on appelle ça des collinettes. Collinettes, peut-être, mais néanmoins, c'est une région très très difficile d'accès. Et il y a une constante dans l'histoire aussi du peuple d'Israël depuis les origines, et la Bible en témoigne, c'est que celui qui contrôle la montagne contrôle le pays. Parce qu'il est pratiquement impossible de déloger quelqu'un qui se trouve dans la montagne. Lorsque les Israélites sont arrivés dans le pays sous la conduite de Josué, ils sont venus de l'Est. Actuellement, il y a des recherches, des découvertes formidables qui sont en train d'être faites sur les traces de l'Exode, les traces matérielles de l'Exode qu'on est en train de redécouvrir. Notamment l'autel de Josué qui a été construit sur le mont Ebal selon ce qui est écrit dans la Bible. On est sûr à 100% qu'on l'a retrouvé pratiquement intact. Et les Israélites sont venus de l'Est par le Jourdain, au travers de ce qu'on appelle les Gilgalim. Et là, ils se sont mis en route vers le sommet de la montagne. Et ils ont occupé dans un premier temps toute cette région de la montagne. Ils ne pouvaient pas descendre plus bas parce que les Cananéens se trouvaient en bas dans les plaines et ils étaient militairement plus forts qu'eux. Et puis, il y a un autre facteur qui s'est produit. Ils sont venus de la mer, de Grèce, des îles de l'Égée, un peuple, des peuples, que les Égyptiens appelaient les peuples de la mer, que la Bible appelle les Philistins. Les Philistins sont venus par l'Ouest. Les Philistins, contrairement aux Israélites, étaient un peuple guerrier, extrêmement puissant. Et notamment, il avait la bombe atomique de l'époque, c'est-à-dire la connaissance de la fabrication du fer. Jusqu'alors, on ne connaissait que la fabrication du bronze. Et les armes de bronze étaient beaucoup plus fragiles que les armes de fer. Et ceux qui n'avaient que des armes de bronze pour combattre des peuples qui avaient des armes de fer étaient forcément en infériorité, ce qui était le cas des Israélites. Et nous voyons justement dans la Bible ce conflit qui a duré plusieurs générations entre les Philistins qui venaient de l'Ouest et les Israélites qui essayaient de descendre de leur montagne pour aller dans les plaines. Logiquement, la puissance militaire des Philistins aurait dû faire la différence. Et en fait, les Israélites ont fini par vaincre. Parce qu'ils étaient les plus forts ? Non, parce qu'ils occupaient cette position dominante qu'était la montagne. À notre époque moderne, c'est l'inverse qui s'est produit. Et là, quand les Israélites, les Israéliens, les Juifs sont revenus au début du siècle dernier dans le pays promis, conformément aux prophéties, ils sont venus d'Europe, ça veut dire qu'ils sont venus par l'Ouest. Et ils ont d'abord occupé les plaines, toute la région qui était celle qui avait été d'abord occupée à l'époque biblique par les Philistins, de telle sorte qu'aujourd'hui, les trois quarts de la population israélienne se trouvent sur cette plaine côtière qui va donc depuis la frontière du Liban jusqu'à la frontière d'Égypte. Et dans les montagnes se trouvaient les Arabes. Et lorsque, en particulier, a éclaté la guerre des six jours, eh bien, il semblait que le sort d'Israël était scellé. Les Arabes étaient infiniment plus nombreux, ils étaient infiniment mieux armés, et ils occupaient cette région des montagnes. De telle sorte que quand la crise qui a conduit à la guerre des six jours s'est déclenchée, tout le monde était à peu près certain que le sort d'Israël était scellé. Et un extraordinaire événement s'est produit. Contrairement à toutes les données, contrairement à toutes les attentes, en six jours, le peuple d'Israël a vaincu ses ennemis et s'est installé dans cette région des montagnes. Il y a à ce phénomène-là aucune explication humaine. C'est évidemment un miracle. Parce que tous les atouts étaient entre les mains des ennemis d'Israël et Israël a vaincu. Et il est important aussi de préciser que cette région des montagnes, qui est la Judée-Samarie, que l'on appelle la Cisjordanie, les territoires occupés et d'autres expressions du même ordre, eh bien, sont le cœur du pays. Et sont une région stratégique essentielle. Et quelle que soit la solution du conflit qui pourrait être élaboré et qui pourrait aboutir à ce qu'on rêve de paix, j'en parlerai dans un instant, eh bien, Israël ne pourra jamais accepter qu'il y ait dans les montagnes des éléments qui lui soient hostiles. Parce que un miracle, il n'est pas sûr qu'il se reproduise deux fois. Il y a eu un miracle en 1967, mais si on revenait, comme les nations l'exigent, au statu quo ante, et qu'à nouveau, avec maintenant des armes encore plus perfectionnées, des missiles et des choses semblables, il y avait dans cette région des montagnes des éléments qui soient hostiles à Israël, il n'est pas du tout sûr qu'Israël pourrait tenir tête à ses ennemis. Et ça, c'est une des données essentielles du conflit israélo-arabe. Maintenant, je reviens sur ce que nous disions au sujet d'Israël, carrefour de route. Et là, nous avons dit qu'Israël était coincé en sandwich entre les grandes puissances. Bon, ça, si on reprenait un survol très rapide de l'histoire, de, disons, 5000 ans d'histoire, 6000 ans d'histoire à peu près, eh bien, on constaterait que cette loi a toujours joué, bien sûr, et que, à cause de cette situation particulière, il n'y a pratiquement jamais eu d'État indépendant dans cette région, à deux exceptions près. La première, ce sont les deux royaumes d'Israël. D'une part, le royaume, plutôt l'État d'Israël qui s'est créé à l'époque de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et ensuite, celui qui s'est créé au retour de l'exil de Babylone. Et le deuxième exemple, c'est le royaume des croisés. Il est important de préciser que, contrairement à ce que l'on pense aujourd'hui, Et ce que les médias nous distillent, il n'y a jamais eu d'État palestinien dans cette région. Et pendant tout le temps de la domination arabe, à partir du 7e siècle jusqu'à 1917, la Palestine, comme l'appelaient les Arabes, était une partie du monde arabe, de l'Empire arabe, des empires des différents royaumes arabes qui se sont succédés jusqu'à 1917. Et pourquoi cela? Pourquoi les Juifs et les croisés ont été les seuls qui ont réussi à créer dans cette région des États indépendants et les Arabes n'ont jamais réussi à le faire? Eh bien, parce que, comme le dit la Bible, ce pays est un pays qui dévore ses habitants. C'était ce que les espions avaient rapporté à Josué quand ils avaient été visiter le pays, ou plutôt à Moïse. Ils avaient dit, oui, c'est un pays excellent, c'est sûr. Pour nous, ça ne paraît pas. Mais disons, pour des gens qui ont vécu dans le désert pendant 40 ans, ce pays semi-désertique était quand même un paradis. Alors ils ont dit, oui, il coule le lait, le miel. Mais, c'est un pays qui dévore ses habitants. Qu'est-ce que ça veut dire un pays qui dévore ses habitants? Eh bien, il y a une expression qui revient souvent dans la Bible, dévorer au fil de l'épée. L'épée est un instrument qui dévore. Et dire que le pays d'Israël est un pays qui dévore ses habitants, ça veut dire que c'est un pays où règne d'une manière endémique la guerre. Et pour pouvoir se tenir dans ce pays, il faut non seulement être bien armé, être prêt à combattre, mais comme le disent les prophètes, la force des armes ne suffit pas. Nous avons parlé des Philistins, qui étaient une grande puissance militaire. On pourrait évoquer aussi d'autres peuples qui ont aussi été des grandes puissances militaires et qui n'ont pas réussi à installer un État indépendant dans ce pays. Pourquoi? Parce que ce pays, pour eux, ne représentait rien. Pour pouvoir vivre et s'installer dans ce pays, il faut plus que des velléités humaines, il faut une motivation spirituelle profonde. Il faut les armes de l'esprit. Il faut quelque chose qui fasse sain, S-A-N, intérieurement. Et seul le peuple d'Israël a eu cette conviction que ce pays lui avait été donné par Dieu. Avant d'entrer dans le pays promis et de commencer la conquête militaire du pays, ça c'était aussi évidemment un élément incontournable. Mais Israël a subi 40 ans de préparation dans le désert. Et là, il a reçu une arme spirituelle extraordinaire, la Torah, la Bible, qui lui a été révélée par Moïse au mont Sinaï. Et la Torah lui donnait sur les peuples qu'il allait affronter une supériorité spirituelle absolument inégalée. La Torah était l'arme de l'esprit par excellence. Et avant de faire entrer le peuple dans la terre promise, Dieu commence par lui donner et lui enseigner la Torah. La Torah qui promet entre autres justement aussi ce pays. Et lorsqu'après la mort de Moïse, Josué va commencer la conquête, le Seigneur lui dit ceci, « Que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite dans ce livre jour et nuit, car c'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. » Et avant sa mort, Moïse aussi avait tenu un langage un peu semblable. Et il avait dit, on en a parlé hier avec ceux qui étaient avec nous, donc on a parlé des bénédictions et des malédictions, il dit, « Si tu mets en pratique les paroles de ce livre de la Torah que je te donne aujourd'hui. Alors tu auras la supériorité sur toutes les nations, tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Un seul d'entre vous en mettra 10 000 en fuite. » Pourquoi? Parce que tu auras cette arme spirituelle intérieure qu'est la Torah. Mais si vous vous détournez de ce livre de la Torah que je vous prescris, c'est l'inverse qui se produira. Parce que tu es le moindre de tous les peuples. et ta supériorité ne repose pas sur ton nombre, sur ta force, sur ta sagesse, mais ta supériorité sur les nations, elle ne résulte que justement de ta relation avec Dieu qui t'est donnée par la Torah. Si vous vous détournez, alors vous ne subsisterez pas dans ce pays. Vous serez dévorés par l'épée. Vous serez exilés loin de ce pays. Et l'inverse se produira. Alors qu'un seul d'entre vous en mettait 10 000 en fuite, un seul de vos ennemis en mettra 10 000 d'entre vous en fuite. Et là, vous serez balayés de ce pays comme les nations que je vais détruire devant vous. Et lorsque nous regardons l'histoire biblique, nous constatons que les choses se sont effectivement produites ainsi. Israël, à cause de cette force spirituelle que lui donnait la Torah, ses armes de l'esprit, a pu installer un État indépendant, qui a même connu cette époque d'apogée que j'évoquais tout à l'heure, à l'époque de David et de Salomon, de telle sorte que pour la première fois dans l'histoire, il y a eu un empire israélite. Et ce n'étaient plus les grands empires du Nord et du Sud qui contrôlaient le Moyen-Orient, mais c'était le petit Israël qui s'était considérablement agrandi à cause de la bénédiction de Dieu, parce que David et son fils Salomon, en tout cas dans la première partie de sa vie, avaient soigneusement et scrupuleusement gardé tous les préceptes de la Torah du Seigneur. Mais quand après la mort de Salomon, le peuple va se détourner de la Torah, quand il va se mettre à pratiquer les coutumes et les abominations des nations cananéennes que Dieu avait chassées devant eux, eh bien ce que Moïse et ce que Josué avaient annoncé va se produire. Il va y avoir cette langue, ce grignotage des nations qui sont autour d'Israël, qui vont faire que petit à petit, le territoire contrôlé par Israël va se restreindre jusqu'au moment où il sera balayé comme les prophètes l'avaient annoncé. Maintenant, les croisés. Israël a réussi aussi longtemps qu'il a eu cette motivation profonde, qu'était le respect de la parole de Dieu, le respect de la Torah. Et les croisés. Alors, les croisés, c'est un phénomène très spécial. On peut penser beaucoup de choses de l'aventure des croisés. Je suis de cela. C'est quelque chose qui est très discutable, que cette entreprise-là. Mais, ce qu'on ne peut pas nier, c'est que dans la première partie de l'aventure, en tout cas, il y avait des motivations spirituelles. Elles étaient discutables, mais elles étaient là. Et ces motivations spirituelles ont permis aux croisés de créer cet État indépendant. Mais lorsque dans la deuxième partie de l'aventure des croisés, l'attrait des grandes seigneuries, des mirages et des richesses de l'Orient a pris la place, eh bien, s'est produit ce qui avait été le sort des deux États juifs qui l'avaient précédé. À son tour, l'État croisé a été balayé de telle sorte qu'il ne reste plus rien que des ruines aujourd'hui. Par contre, pour les Arabes, la terre d'Israël n'a jamais représenté quoi que ce soit. Et lorsque les Arabes ont eu le contrôle de cette terre, eh bien, ils l'ont laissée à l'abandon parce qu'elle ne signifiait rien pour eux, parce qu'elle n'avait aucune valeur spirituelle. Et ce n'est que lorsque les autres nations, Israël d'une part et la chrétienté d'autre part au moment des croisades, essayaient en quelque sorte de retrouver leur souveraineté sur ce pays, c'est là que le nationalisme arabe se réveillait seulement. Et voyez-vous ce que nous vivons aujourd'hui est une constante. Quand on connaît ces lois de l'histoire, eh bien, on n'est pas étonné de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, les Israéliens sont parfaitement conscients que pour pouvoir subsister dans ce pays, eh bien, la guerre est une des constantes. Il faut être prêt à combattre. Et il faut être prêt à combattre avec non seulement la force des armes, mais également avec la force spirituelle. Et par conséquent, ce besoin d'un ressourcement spirituel indispensable pour pouvoir ne pas être dévoré par ce pays qui dévore ses habitants. La paix, ce n'est qu'une trêve entre deux guerres. Et quand une guerre est terminée, on se prépare à la prochaine. Ça, c'est une constante absolument incontournable. Alors, on nous dira, mais c'est sans espoir alors. Non. Pourquoi? Parce que cette terre, c'est aussi la terre de la révélation. Et comme l'avons dit hier avec ceux qui étaient avec nous au séminaire, ce n'est que lorsque le peuple d'Israël est sur sa terre que la révélation de Dieu pour l'humanité peut lui être donnée. Et les miracles qui se sont produits à l'époque de Josué, qui se sont produits aussi à l'époque du retour à Sion avec Ezra et Néhémie, eh bien, sont en train de se reproduire pour la troisième fois dans l'histoire d'Israël. Et chaque fois que ces miracles se sont produits, eh bien, une bénédiction a été donnée au monde entier. Comme Dieu l'avait promis à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et nous pouvons penser, selon la loi des cycles prophétiques que beaucoup de spécialistes israéliens ont mis en évidence dans la Bible, c'est-à-dire quand les circonstances se reproduisent de la même manière, eh bien les conséquences aussi vont être les mêmes. Si bien que quand on est dans une phase, une première phase d'un cycle prophétique, eh bien on peut prévoir ce que seront les autres étapes de ce même cycle. On peut prévoir ce qui va se passer. Il y a un cycle prophétique qui a été évoqué déjà dans notre propos, c'est ce cycle de l'exil et du retour. Quand le peuple d'Israël se détourne de son Dieu, c'est l'exil. Mais quand il revient à son Dieu, eh bien, Dieu le ramène dans son pays et lui donne cette supériorité sur les nations à cause de sa parole. Nous vivons cette troisième phase. Et nous pouvons donc prévoir ce qui va se passer. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est toujours, après, il y a la décadence. Oui, jusqu'à un certain point. Et les prophètes ont été ceux, justement, qui ont été les instruments de la révélation quand Israël était sur cette terre. Que ce soit à l'époque du premier temple, avec des gens comme Ésaïe et Jérémie et les autres prophètes, que ce soit à l'époque du deuxième temple, avec Jean-Baptiste, et puis surtout Jésus et les apôtres, c'est le même processus. Les prophètes surgissent. Ces hommes de l'esprit que l'on a pu appeler les fous de Dieu. Fous de Dieu, je crois que le mot n'est pas trop fort. Parce que tous les prophètes ont eu une vision extraordinaire. Celle de la paix. Et j'évoquerai, entre autres, la vision du chapitre 2 du livre du prophète Ésaïe. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre. Même les animaux seront pacifiés. Chapitre 11 d'Ésaïe, le loup habitera avec l'agneau. Le lion et la vache mangeront ensemble du fourrage. Et même un jeune enfant s'amusera avec un serpent venimeux qui aura perdu sa dangerosité et s'amusera avec ce serpent comme si c'était un petit chien. Toute la nature sera transformée. Et ces prophètes sont assez fous pour annoncer justement que sur cette terre, qui comme l'avons vu, est un éternel champ de bataille, un jour naîtra la paix. Ce qu'on appelle en hébreu le shalom. Il faut être fou pour dire des choses pareilles. Pourquoi? Parce que ça défie toutes les lois de l'histoire. Et pourtant, animés par l'Esprit de Dieu, les prophètes ont cette audace d'annoncer ce temps où Jérusalem portera véritablement le nom qui est le sien, Ir Shalom, la ville de la paix. Et vous avez cet extraordinaire psaume 122, « Demandez la paix de Jérusalem, qu'il soit dans la paix ceux qui t'aiment, qu'ils jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères, de mes amis, je fais des vœux pour toi. À cause du temps de l'Éternel, mon Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. » Cette vision de la paix, encore une fois, elle est totalement irrationnelle. Mais il est bien évident que si un jour la paix pouvait s'instaurer dans cette région, alors elle s'instaurait dans le monde entier. Et les grandes puissances ont compris ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant d'efforts qui sont faits pour instaurer la paix au Moyen-Orient. Toutes sortes de solutions de paix ont été élaborées. Finalement, toutes les solutions possibles et imaginables ont été évoquées. Et aucune d'entre elles ne réussit. Pourquoi? Parce que cette paix ne sera pas une paix humaine. Elle sera un don de Dieu. Et cette paix ne pourra venir que par celui que la Bible appelle le prince de la paix, le Messie. On me demandait, je tiens à dire, levé par un hebdomadaire protestant il y a quelques années de cela, à l'occasion des nombreux conflits qui a ensanglanté la terre d'Israël, on me demandait quand est-ce que s'instaurera la paix dans cette région. J'ai déçu mon intervieweur en lui disant ben, uniquement quand le Messie viendra, uniquement quand Jésus reviendra. Elle me dit, il n'y aura pas de paix avant. Je dis, non, il n'y aura pas de paix avant. C'est impossible. Alors, il avait l'air de dire, oh, bah, c'est pas pour demain. Ici, c'est pour demain, justement. Parce que les choses sont très avancées maintenant. Et lorsque le Messie viendra, reviendra, alors, il mettra fin, justement, à ces conflits. Et nous retrouvons ici un texte merveilleux que je vous invite à lire maintenant. Dans le chapitre 19 du livre du prophète Ésaïe, où il est question de l'Égypte. L'Égypte, c'est, disons, la plus grande nation arabe. Et on voit ici qu'elle représente effectivement tout le Moyen-Orient dans son ensemble. C'est un long chapitre, nous n'allons pas le lire en entier. Mais une première partie évoque des jugements de Dieu qui s'abattront sur l'Égypte. Terrible jugement. Mais nous lisons justement à partir du verset 18, après la description de ces jugements. En ce jour-là, il y aura 5 villes au pays de Canaan qui parleront la langue de au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui prêteront serment par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée Ir Ha-Cheres. En ce jour-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et près de la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Quand ils crieront à l'Éternel, à cause de leurs oppresseurs, il leur enverra un sauveur. Il prendra leur parti pour les délivrer. L'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel dans ce jour-là. Ils lui rendront un culte avec des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel et il se laissera fléchir et les guérira. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens rendront un culte à l'Éternel. Une route. Ces routes dont nous avons parlé tout à l'heure. Ces routes qui sont aujourd'hui inutilisables. Parce que justement, il n'y a pas la paix entre Israël et ses voisins. Et Israël, en tant qu'État, coupe le monde arabe en deux. Et aujourd'hui, quand on va aller d'Irak, Mésopotamie, en Égypte ou l'inverse, on est obligé soit de prendre la voie des airs, soit la voie maritime, soit de faire un détour par les déserts d'Arabie, etc. Mais la route directe n'existe plus. Mais quand viendra le temps messianique, ce temps qui est évoqué par cette prophétie, alors, justement, cet obstacle sera ôté et le pays d'Israël retrouvera ce qu'était son rayonnement à l'époque de sa splendeur, à l'époque de David et de Salomon en particulier. Et c'est ce que nous dit le verset 24. En ce jour-là, Israël sera un troisième avec la Syrie, l'Égypte et la Syrie, à être une bénédiction pour toute la terre. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Et là, je voudrais donc évoquer deux points avant de terminer. Et prendre un autre texte, cette fois-ci, dans le chapitre 25 du livre de la Genèse, où il est question de Ishmaël, ça veut dire l'ancêtre des peuples arabes. Et il nous est dit au verset 12, « Voici la postérité d'Ishmaël, fils d'Abraham, que l'Égyptienne Agar, servante de Sarah, avait donné à Abraham. Voici les noms d'Ishmaël avec le nom de leur dîner. Nevaïot, premier-né d'Ishmaël, Kedar, Abdiel, Mitsa, Mishma, Touma, Nassa. » Ça, ce sont des noms prophétiques, on dit les sages, qui évoquent justement cette guerre finale qui aura lieu à la fin, qui montre, qui fera en sorte que ce grand pays de Gog que nous avons évoqué tout à l'heure montera contre ce qu'est le centre du monde. Qu'est-ce qu'un grand pays comme celui de Gog peut bien avoir à faire dans un petit pays comme ça? Justement parce que c'est le centre du monde, parce que c'est le nombril du monde, comme le dit le prophète. Alors, à ce moment-là, Israël sera dans la détresse. Mishma, nous entendrons. Douma, nous nous tairons. Massa, nous supporterons. Et les fils d'Ishmaël, donc, nous a dit, ensuite verset 18, demeurèrent depuis Havila jusqu'à Chour. Havila, ça veut dire depuis l'Égypte jusqu'à Chour. Non, le contraire. Havila, c'est la Mésopotamie. Chour, c'est l'Égypte, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Et là, vous avez un verset qui est traduit d'une telle manière qu'il est pratiquement incompréhensible en français. Et Ishmaël s'établit en face de ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut retourner au texte original. Et là, vous avez cette expression d'hébreu, « Ulifne kol achiv nafal ». Ça se traduit de deux manières. Et il tombe en face de son frère. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi les traducteurs ont eu une difficulté à comprendre cette expression. Il tombe en face de son frère. Alors ils ont essayé d'interpréter, ils ont traduit comme ça. Il s'établit en face de son frère. Alors, pour comprendre cette expression, il faut lire la suite, qui est souvent séparée par un sous-titre dans nos Bibles. C'est le cas dans ce qui me concerne. À partir du verset, avant le verset 12, nous avons ce sous-titre, « Histoire d'Ishmaël et de sa famille ». Et après le verset 18, « Histoire d'Isaac et de sa famille ». Comme je disais hier, les sous-titres qui ne sont pas inspirés, qui sont le fait des éditeurs de la Bible, des traducteurs, sont intéressants parce qu'ils nous aident à nous repérer dans la Bible. Mais ils nous rendent des mauvais services parfois parce qu'ils coupent une unité littéraire. Alors, oubliez le sous-titre que vous avez dans votre Bible et lisons la suite. Et il tombe en face de son frère. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Et postérité, ça peut se traduire aussi descendant. Voici le descendant d'Abraham, d'Isaac, fils d'Abraham. Question des rabbins. Qui est ce descendant d'Isaac et d'Abraham? Qui est ce descendant-là devant lequel, au temps de la fin, Ishmaël tombera? Réponse, le Messie, qui est descendant d'Isaac et descendant d'Abraham. Ça veut dire que l'inimitié, la guerre entre Israël et Ishmaël durera jusqu'à l'apparition du descendant d'Isaac et d'Abraham, le Messie. Que se passera-t-il alors? Eh bien, ces peuples arabes tomberont devant leur frère, car le Messie, c'est leur frère aussi, parce qu'ils sont aussi des descendants d'Abraham. Et la puissance maléfique d'Ishmaël, qui n'est autre que l'islam, religion diabolique, contrefaçon diabolique de la religion biblique, de la révélation biblique, cette puissance maléfique et diabolique sera brisée. C'est elle qui tombera. Et puis, l'ifne kol achiv nafal, ça peut se traduire d'une autre manière. Et il se prosterne devant son frère. Et là, nous rejoignons ce que nous avons lu dans Ésaïe 19. Non seulement la force de l'islam sera brisée, mais également les peuples qui auront embrassé l'islam se tourneront vers Jésus et le reconnaîtront comme tel. Et je peux vous dire une chose, c'est une bonne nouvelle, c'est que déjà ce mouvement est en route. Et il y a aujourd'hui une effusion de l'esprit sans précédent sur le monde islamo-arabe. 1 million de musulmans se convertissent à Jésus-Christ chaque année. Et c'est souvent par des manifestations de la puissance de Dieu, des visions, des révélations, des guérisons extraordinaires. Parce que ces peuples qui ont été privés de l'évangile pendant 13 siècles, eh bien, ont le droit aussi, avant le retour de Jésus, d'avoir leur chance et d'entendre l'évangile. Et Dieu ne fait pas exception de personne. Et sans l'intervention de l'Église d'Occident en pleine déliquescence, le Seigneur répand souverainement son esprit sur ces pays-là. Et je peux vous dire que nos frères arabes peuvent nous donner bien des leçons. Et je voudrais terminer justement par cette interpellation qu'un de nos frères, qui est pasteur à Bethléem, nous donnait quand je l'ai fait venir il y a plusieurs années de cela en France. Et quand il a visité les églises françaises, il a été terriblement déçu de l'état spirituel de nos églises. Et la dernière réunion qu'il a faite, c'était à Brest, et j'étais avec lui, il nous a interpellés d'une manière extrêmement vigoureuse. C'est-à-dire, vous les chrétiens de France, qu'est-ce que ça vous coûte l'évangile? Ça ne vous coûte rien. Vous avez des beaux locaux, chauffés l'hiver, climatisés l'été. Vous avez des belles voitures, elles aussi, confortables, qui peuvent vous amener facilement dans ces lieux de culte. Et pourtant vous dites, aujourd'hui, ce dimanche-ci, je n'irai pas au culte parce qu'il fait trop chaud. Et dimanche suivant, vous dites, je n'irai pas parce qu'il fait trop froid. Et puis vous dites, je n'irai pas à la réunion de prière parce qu'il y a un beau film à la télé. Et puis vous dites, je n'irai pas à l'étude biblique parce que c'est l'heure de la leçon de judo du petit. Et ça continue comme ça. L'évangile, ça ne vous coûte rien. À Bethléem, eh bien, les chrétiens là-bas, ils savent ce que ça leur coûte. Lui-même, on lui a tiré dessus 4 fois. Il a encore une balle coincée dans son épaule que les médecins n'ont pas pu extraire. Son frère, quand il s'est converti à Jésus-Christ, a été assassiné par ses voisins à coups de hache. Et quand je l'ai connu il y a de cela plusieurs années, l'église de Bethléem était en deuil parce que 2 jeunes filles, 2 sœurs, 20 ans et 18 ans, que des dettes qui s'étaient tournées vers Jésus peu de temps auparavant, venaient d'être retrouvées égorgées dans leur lit. Ils savent ce que ça coûte l'évangile. Et notre frère disait, quand les chrétiens de notre église viennent au culte le dimanche matin, ils ne savent pas s'ils rentreront vivants. Ils savent ce que ça leur coûte. Offrirai-je à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien? Alors, nous ne sommes pas évidemment amenés à combattre de la même manière que le peuple d'Israël sur sa terre. Mais ce qui était la condition du peuple d'Israël, pour qu'il puisse subsister devant Dieu, pour qu'il puisse être ce peuple de vainqueur, c'était qu'il s'attache à cette parole de Dieu. Si tu mets en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, alors tu seras la tête et non la queue. Mais si tu t'en détournes, alors tu seras la queue et tu ne seras pas la tête. Ces peuples que j'ai chassés devant toi domineront sur toi. Et bien que nous soyons à 4000 kilomètres de ce Moyen-Orient, à 4000 kilomètres de cette terre qui est le centre du monde, 4000 kilomètres c'est finalement pas énorme, eh bien nous sommes aujourd'hui dans le même combat. Si nous ne nous ressaisissons pas spirituellement, alors nos ennemis, qui sont les mêmes ennemis d'Israël, domineront sur nous. Et le seul moyen de résister, eh bien, c'est aussi de revenir, comme le peuple d'Israël était invité à le faire par les prophètes. Et c'est la condition de la survie de nos églises. c'est la condition du salut de nos peuples. Aujourd'hui, le combat d'Israël est le nôtre. Alors, je termine par où j'ai commencé. Pourquoi Israël? Quelle importance d'Israël pour nous? Eh bien, justement, parce que ce combat, eh bien, nous sommes dans la même situation. Pas forcément dans les circonstances semblables, mais nous sommes aussi engagés dans ce combat spirituel pour savoir si nous allons subsister et devenir un peuple de vainqueurs. Peuple de vainqueurs ou peuple de vaincus. Voici, disait Moïse à Israël autrefois, et il nous le redirait si c'était au milieu de nous aujourd'hui. J'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction. Le chemin de la vie et de la bénédiction, si tu mets en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, le chemin de la mort, si tu t'en détournes. Et j'ai remarqué, au travers de mes visites, que bien des chrétiens ne croient plus en l'autorité de la parole de Dieu. Et non plus la parole de Dieu comme référence à leur vie. Ils ont comme référence les critères du monde, les valeurs du monde. Et la Bible passe au second plan. Comme disait un pasteur dans le sud de la France, je me suis rendu compte que les gens de mon église ne lisent plus la Bible parce qu'ils sont devant la télé, devant Internet. Et voilà justement aujourd'hui ce qui est en train de détruire, comme l'avaient fait les idoles de Canaan pour le peuple d'Israël après la mort de Salomon. Et les prophètes disaient, à la loi, témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Aujourd'hui, c'est le grand défi qui nous est lancé. Ce défi qui peut conduire soit à la catastrophe, soit au chaos. La venue du prince de la paix. Et c'est pour cela aussi qu'il faut être prêt quand le prince de la paix paraîtra, pour que nous entrions avec lui dans ce royaume de paix et de justice où le Seigneur sera tout en tous. Nous allons prier.
Radio La Sentinelle vous a présenté une conférence animée par Jean-Marc Taubois sur le thème « Pourquoi Israël ?».